journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Il n'y a pas qu'à la pompe que votre voiture va vous coûter plus cher. Dès demain, les tarifs autoroutiers augmentent de 2% en moyenne. Sauf pour certains petits trajets, c'est une info France Inter. Le premier concessionnaire de France gèle les prix pour des allers-retours domicile-travail. Le détail à suivre. Ils sont un peu les électeurs oubliés, les Français handicapés ont pour certains bien du mal à suivre cette campagne présidentielle. Toujours pas de site internet, de meeting, de programme adapté à leur handicap. C'est pourtant une obligation désormais, vous l'entendrez. Dans ce journal, nous serons aussi sur les plages souillées par la marée noire au Pérou et nous reviendrons sur l'exploit de Bergerac en Coupe de France de football.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes, 7h50, c'est aujourd'hui le directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos, Brice Teinturier.
France Inter.
Et voilà Alexis qui va nous faire peut-être préférer les nationales aux autoroutes.
Les tarifs des péages augmentent donc dès demain 2% de plus en moyenne. Chaque hiver, la loi prévoit une évolution en fonction de l'inflation. Et vu le contexte, c'est donc la plus forte hausse des dernières années. Mais certains vont y échapper. C'est une info France Inter ce matin. Vinci Autoroutes, le plus gros réseau du pays, annonce un gel de ses tarifs pour la plupart des petits trajets, moins de 50 km. Fabien Cazot, ça concerne surtout les grandes agglomérations.
Deux tiers des trajets de moins de 50 km sont concernés par le gel tarifaire annoncé par Vinci Autoroutes. Salon de Provence-Marseille, Villefranche-de-Lauragais-Toulouse par exemple, ou encore Dourdan-Paris. Des itinéraires très empruntés pour des allers-retours domicile-travail, les moins chers à l'unité mais les plus nombreux. Les trajets plus longs restent, eux, soumis à des hausses tarifaires de 2%, voire plus. La moyenne nationale pour le premier concessionnaire de France et ses 2 millions de clients, comme pour l'ensemble des autres, sera bien de 2%. Ces mathématiques, explique Laurent Ecquet, directeur de l'Observatoire des experts de la mobilité, cela correspond à 70% de l'inflation auquel s'ajoutent les frais de maintenance du réseau.
Il est prévu une loi tarifaire qui prévoit une augmentation annuelle. C'est parfaitement prévisible. Pour cette année, en tout cas, il y a une partie supplémentaire à prendre en compte, car il faut se souvenir qu'en 2015, les politiques avaient demandé le gel des tarifs. En contrepartie, il a été accepté que ce gel fasse l'objet d'une compensation par un rattrapage sur les 8 années, donc 2022 est concerné, en moyenne de 0,25%, qui est prise en compte en plus.
Une loi tarifaire qui court encore pour une dizaine d'années, jusqu'à la fin des contrats actuels de concession, qui s'étalera entre 2026 et 2032.
Fabien Cazot pour cet exclu Inter, le gel des tarifs pour les petits trajets chez Vinci Autoroutes. C'est un autre groupe du CAC 40, mais en moins bonne forme sur les marchés ces derniers jours. Orpea, Limoges, son directeur général, Yves Lemann, démis de ses fonctions hier soir après l'enquête accablante d'un journaliste sur la gestion des maisons de retraite du groupe. Il est remplacé par Philippe Charrier, jusque-là président du conseil d'administration. Tout ça à la veille d'une convocation chez la ministre chargée de l'autonomie. 3 semaines d'audience pour revenir sur la nuit du 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin, l'enlèvement de Maëlys, puis le meurtre de la fillette de 8 ans. Le procès de Nordal-Lelandais s'ouvre ce matin devant les assises de l'Isère. L'ancien maître chien, déjà condamné l'an dernier pour la mort du caporal noyé, risque cette fois la perpétuité. Sur franceinter.fr, dès maintenant, dossier complet sur 4 ans d'enquête. Nous serons aussi en direct de Grenoble dans le journal de 8h.
Christiane Taubira, il est 7h33, appelle Alexis à l'Union après sa victoire à la primaire populaire.
Et elle était la seule à en reconnaître la légitimité et elle l'a emportée hier soir devant Yannick Jadot, 2e, Jean-Luc Mélenchon, 3e et Anne Hidalgo, 5e. Pour l'instant, aucun des trois ne saisit la main tendue, à l'image du candidat écologiste. Quand on demande à Yannick Jadot ce qu'il va répondre à Christiane Taubira, voici ce qu'il dit.
Rien. Écoutez, c'est une primaire populaire pour Christiane Taubira. Elle en sort vainqueur. C'est une candidature de plus. Je crois que c'était exactement l'inverse de ce que souhaitait la primaire populaire. J'espère que maintenant on pourra faire campagne. Vous savez à quel point le dérèglement climatique, les injustices sociales, l'effondrement du vivant sont au cœur des préoccupations des Françaises et des Français, sont nos grands défis. Ce sera ma campagne.
Yannick Jadot, 20h de TF1 hier soir. Même son de cloche du côté d'Anne Hidalgo qui fustige elle aussi une candidature de plus. Et de Jean-Luc Mélenchon, je ne me sens pas concerné, réagit le candidat insoumis. Il reste ce matin 69 jours de campagne avant la présidentielle. Mais une partie des Français ne peuvent pas vraiment la suivre. Une nouvelle fois, les personnes handicapées se sentent oubliées des candidats et de leurs équipes. Pour porter leur voix, le CNCPH, le Conseil national qui les représente, installe un observatoire de l'accessibilité des campagnes électorales, car il y a encore beaucoup à faire à Nordenstein.
Pas de sous-titrage des vidéos, pas d'audio-description des images, pas de traduction en français facile à lire et à comprendre. Vous aurez beau chercher, les sites internet des candidats aujourd'hui déclarés sont vierges de systèmes d'accessibilité pour les handicapés. Cela n'étonne presque pas Jérémy Beauroy. Pour le président du CNCPH, il faudrait d'abord que les candidats arrêtent de penser que les personnes handicapées ne s'intéressent qu'au sujet du handicap.
C'est un peu ce qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de candidats. Ah oui, la question du handicap, bon, bah, c'est une question d'allocation, c'est une question d'accessibilité, etc. Alors, il faut aussi s'autoriser à penser que les personnes handicapées sont intéressées par tous les sujets de croissance, les sujets de défense, de sécurité, etc., etc.
D'autant que depuis le 1er janvier, le code électoral prévoit une campagne accessible. Alors à défaut de le faire pour les personnes handicapées, faisons-le pour tout le monde, propose Sylvie Sanchez, présidente de l'association Créative Handicap.
Comme les trottoirs qui vont être surbaissés, quelqu'un qui a une poussette ou quelqu'un qui a du mal à marcher, le lieu va être accessible, le trottoir va être accessible. Tout le monde a le droit d'accéder au meeting, de voter, etc.
Selon le CNCPH, aujourd'hui, une personne sur cinq ne peut pas consulter les programmes des candidats parce qu'ils ne sont pas accessibles à leur handicap. Une manne de vote non négligeable pour tous ceux qui veulent être présidents.
À Nordenstein, au Portugal, le Premier ministre socialiste remporte largement les législatives avec en prime la majorité absolue. Plutôt une surprise pour António Costa qui avait dû s'allier à la gauche radicale ces dernières années pour diriger le pays. L'extrême droite fait aussi une percée historique et devient la troisième force politique au Parlement. Elle passe de 1 à 12 députés. Malgré leurs engagements auprès de la communauté internationale, les talibans auraient depuis leur arrivée au pouvoir à Kaboul tué plus d'une centaine d'Afghans liés à l'ancien gouvernement, aux forces de sécurité ou aux armées étrangères. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONU ce matin, rapport dénonçant aussi toute une série d'attaques, d'intimidations et d'arrestations contre des militants des droits de l'homme. La nappe de pétrole est bien plus grosse que ce qu'on imaginait au large du Pérou. Deux semaines après la fuite survenue lors du déchargement d'un tanker de Repsol, les autorités doublent l'estimation et parlent désormais de 12 000 barils de mazout dans la mer. Un tiers seulement a été récupéré pour l'instant. 180 hectares de litoral déjà souillé. Amanda Chaparro a pu suivre ceux qui tentent de nettoyer et de secourir les animaux pris au piège. Reportage.
Trois autres pingouins couverts de pétrole.
Tous les jours depuis la marée noire, le biologiste Roberto Rodriguez et son équipe sortent en mer. Ils parcourent la réserve naturelle des îlots de Ancon au nord de Lima, la capitale, à la recherche d'animaux à sauver. Quinze jours après la marée noire, les équipes de l'État trouvent encore des cadavres et des oiseaux couverts de brut. Si la zone est redevenue relativement propre en apparence, il ne faut pas s'y fier, affirme Roberto.
À simple vista, vemos bonito todo.
À première vue, tout est beau, mais en réalité, l'impact est bien là. Par exemple, on voit que la mousse contient encore du pétrole. Le pétrole contient de nombreux composants, des métaux lourds qui vont rester au fond des océans, collés aux pierres et dans les organismes. C'est seulement après beaucoup de temps qu'on pourra mesurer l'impact réel.
Sur Terre, la colère gronde chez les pêcheurs artisanaux. Ils font le pied de grue devant le siège de Repsol. 800 familles sont affectées. Elles n'ont pour l'instant reçu aucune indemnisation et se sentent flouées par l'entreprise.
C'est une honte qu'une entreprise internationale nettoie avec des pelles et des balayettes. C'est se moquer de nous. Ils s'en fichent de la population et encore plus de la pollution.
Quatre dirigeants du groupe Repsol sont interdits de sortie du territoire pendant 18 mois, le temps de faire toute la lumière sur les circonstances de la marée noire.
Oui, car Repsol rejette la responsabilité de cette marée noire sur la forte houle ce jour-là en mer après l'éruption volcanique aux îles Tonga. C'était le reportage d'Amanda Chaparro à Lima pour France Inter. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence cet après-midi au sujet de l'Ukraine, réunion à la demande des États-Unis, alors que Washington brandit de nouvelles menaces de sanctions contre la Russie en cas d'invasion du territoire ukrainien. Une fois n'est pas coutume, au Congrès, démocrates et républicains sont au diapason et proches d'un accord sur ce point. Dans le viseur, notamment le gazoduc Nord Stream 2 ou encore l'accès des Russes aux transactions en dollars sur les marchés internationaux. Le retrait de Neil Young la semaine dernière et la crainte d'un boycott plus large ont finalement contraint Spotify à réagir. La plateforme de streaming audio annonce des premières mesures contre la désinformation sur le Covid. La semaine dernière, la légende du folk rock a retiré sa musique, ulcérée par la présence d'un podcast doutant de la vaccination. Alors pour tenter d'éteindre l'incendie, Spotify veut introduire systématiquement des liens dans les podcasts évoquant le Covid, des liens qui renverront les utilisateurs vers des informations scientifiquement prouvées.
Il est 7h39, le séjour en terre périgourdine a viré au cauchemar pour les Verts.
Et on parle bien de foot, hein, déjà dernier du championnat. Saint-Étienne est éliminé de la Coupe de France de foot dès les huitièmes de finale, battu hier soir par un beaucoup plus petit que lui, les amateurs de Bergerac, National 2, la 4e division. Ils l'ont emporté donc chez eux, 1-0, et décrochent leur ticket pour les quarts. Une première pour ce club et ses supporters, Théo Schuster.
Lorsque Florent Bata siffle la fin de la rencontre entre Bergerac et Saint-Etienne, c'est tout un stade qui s'enflamme. Après avoir éliminé les professionnels du FC Metz au tour précédent, les Bergeracois ont à nouveau éliminé une Ligue 1 pour le plus grand plaisir de leurs supporters.
C'était complètement fou, c'était énorme. Dans les tribunes, on était tous en famille avec les potes et tout, et franchement, moi j'ai débranché le cerveau, c'était énorme.
Énorme, le mot est sur toutes les bouches. Les supporters, bien sûr, mais également les joueurs, qui ont du mal à y croire, comme Axel Tressens.
C'est énorme, on se rend pas compte encore, on va se rendre compte ce soir. Demain, dans les semaines qui arrivent, c'est énorme. J'ai même pas de mots.
Tout semble sourire aux amateurs de Bergerac en ce moment, comme le confirme le défenseur Tao Jamais.
C'est grandiose ce qui nous arrive en ce moment, entre le championnat où on est premier et la Coupe de France où on passe en quart. Franchement, c'est magnifique. C'était incroyable quand Romain marque le but. On a tous célébré avec lui, c'était magnifique et c'est des émotions qui sont vraiment incroyables. Le public était en liesse en plus, même si le stade n'était pas rempli, il y avait quand même du monde. Franchement, c'était magnifique avec tous nos supporters, c'était superbe.
Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, le Bergerac Périgord FC n'est plus qu'à 2 matchs du Stade de France. Et lorsque l'on pose la question à l'attaquant Axel Tressens qui il souhaiterait maintenant affronter, la réponse est sans appel.
Paris, j'aime trop Messi Neymar.
Théo Schuster au stade de Périgueux où Bergerac l'a emporté hier soir. Dans l'autre match de la soirée, Monaco est allé s'imposer à Lens 4-2. Ce soir, dernière rencontre de ses huitièmes entre les deux premiers de Ligue 1, le PSG et Nice. Enfin, sur le fil, la Suède, sacrée championne d'Europe de handball, 20 ans après le dernier titre européen des Suédois. Victoire 27-26 hier soir face à l'Espagne.
Alexis Morel, merci. L'édito politique arrive.